Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonjour, vous écoutez Calibre sur Radio Kaléidoscope. Ce soir, pour l'émission, nous avons du coup en technique pour prendre vos appels et gérer toute cette technique, Laura et Myriam, qui poussent les boutons. Et au studio, nous avons Lou et Mélanie.
Voilà, bon bah alors on va peut-être vous redire rapidement c'est quoi cette émission, pourquoi on l'a fait, tout ça. Alors bah Calibre, c'est une émission de libre antenne, ça veut dire que c'est vous qui nous appelez pour discuter avec nous des sujets qui nous préoccupent ici. Donc c'est les sujets, c'est ça va être comme le dit le titre de notre émission, le CAS, le corps, l'amour ou les amours et les sexualités. Donc voilà, on a choisi ces trois mots, mais en fait il y a plein d'autres choses qui s'y rapportent. Hein. Vous sentez pas coincé par ces trois mots-là, appelez-nous pour discuter de ce dont vous avez envie de parler, de poser des questions et tout ça. Alors pourquoi on en fait cette émission? Parce qu'on trouve que souvent ces questions elles sont reléguées un peu dans l'espace intime et qu'on est, on a des difficultés à en parler publiquement et tout ça, et on s'est dit qu'une émission de radio ça pouvait permettre d'échanger plus des savoirs, des expériences, plus que simplement entre amis ou entre amants et tout ça. Donc nous on va vous rappeler que nous on n'est pas du tout des expertes de la question, hein. On n'est pas des logs ou des psychologues, des sexologues, des gynécologues, des trucs comme ça. En fait ça fait pas mal de temps qu'on s'intéresse à ces questions-là, donc on bouquine, on cherche des infos, on discute avec des gens, et du coup petit à petit on arrive à en savoir un petit peu plus, mais c'est aussi grâce à vous qui nous appelez qu'on en sait souvent un peu plus. Et donc voilà, nous vraiment, on n'est pas là pour vous donner une solution ou une réponse à des problèmes que vous auriez ou quoi. On est plus là pour échanger sur ces questions-là, puis essayer de construire ensemble plutôt des réponses, quoi. Donc voilà, Calibre, c'est tous les jeudis soirs de 20h à 21h sur Radio Kaléidoscope de 97 FM.
Pour nous appeler, c'est toujours le 04 76 09 09 09. N'oubliez pas que on n'a pas un énorme standard téléphonique et que du coup, si ça sonne occupé, c'est que quelqu'un est déjà en ligne et du coup, on vous invite à rappeler un peu plus tard. Et si vous voulez nous envoyer un mail parce que vous n'êtes pas disponible dans les moments où l'émission est diffusée et que vous ne pouvez pas nous appeler, par exemple, vous pouvez laisser un mail sur notre site qui est du coup k-libre.poivron.org.
Et notre adresse mail, voilà. C'est @poivron, comme le légume, .org. Voilà. Bon, en fait, à propos de mail, on a reçu un mail cette semaine d'une personne qui va, nous espérons, nous appeler, parce que, en fait, on vous dit de quoi ça va parler, parce que ça peut aussi vous donner envie d'appeler vous aussi. Donc, c'est un garçon qui s'est fait vasectomier, je sais jamais comment on dit, il y a quelques jours. En tout cas, quand il nous a écrit, ça faisait 4 jours. Donc, il voulait nous raconter cette expérience. Donc, on va pas plus en parler. On va attendre qu'il nous appelle pour en parler avec lui. Ce sera bien mieux. Et en attendant, on n'aurait qu'à s'écouter une petite chanson.
Du coup, Princesse Agnès, Si j'étais un homme.
Tiens, Rachid, c'est bien que je te vois, j'ai 2-3 trucs à te dire.
Vas-y, dis-moi.
Ouais, par rapport à ma copine qui est soi-disant ta femme.
Ouais, comment ça, soi-disant? Ouais, c'est ma femme.
Ouais, c'est ta femme et ouais. Tu la frappes.
Et alors, mais je la frappe, mais de quoi? Tu viens ici pour me dire ça?
Ouais, je viens ici pour
tu
dire ça.
Tu crois que je sais pas que je la frappe, je la correctionne et alors?
Et tu crois que c'est bien?
Mais de quoi? C'est comme ça, je la frappe, c'est comme ça.
Quoi? C'est comme
tu
ça.
Tu sais ce qu'elle a fait?
Et alors?
Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait?
Et alors, toi, t'es un bonhomme, tu crois que tu sais bien de frapper une femme sans défense?
Elles sont toutes les mêmes, mis à part ma mère et mes sœurs. Si j'étais un homme, je me dirais que le sexe faible, mes cœurs. Regarde ce qu'elles sont devenues, le cœur impur, les mœurs dégradent. L'image de la femme de prostitution et de sexe en cas. Si j'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos? En me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt. Qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, obstinés comme les MLF, condamner cette gente à sa destinée. Est-ce que je viendrais sous-estimer celles qui se battent pour réussir? Qu'elles fassent pas d'illusions sans passer sous un mec à coup sûr. Est-ce que j'interdirais à ma sœur de sortir le soir de peur qu'elle donne son cul ou finisse sur un trottoir? Est-ce que je parlerai d'embrouille pour prouver que j'ai des couilles? Et je serai le fier devant mes potes quand je raconterai que ma femme j'y mets des coups. Et plus je connais les femmes et plus c'est les chiennes que je découvre. Une meuf du move superficiel matérialiste qui me prouve. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter et raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Homme, serais-je comme la plupart homophobe? Est-ce que je suivrais la vie de l'opinion publique comme une mode? Je me dirais que leur comportement est plus qu'incohérent. Devant un mec qui en aime un autre, tu peux être qu'intolérant. Est-ce que être macho signifierait que je représente la virilité? Que le pacte et ses conneries seraient pour moi qu'une indignité? Est-ce que je serais à 100% contre celles qui veulent la parité? Qu'elles restent à leur place? Leur place c'est d'être femme au foyer. Est-ce que je refuserais d'obéir aux ordres de ma supérieure? Sans réel prétexte, juste pour mes principes et mes valeurs. Est-ce que j'admirerais ce mec parce qu'il enchaîne ta surcharge? Et sur cette meuf qui fait la même, qui ne se regarde plus dans une glace? L'audace d'admettre que princesse Agnès sera mieux que moi. Ou je me dirais qu'elle a couché pour en arriver là.
Mais bien sûr toutes les meufs couchent.
Mais vas-y laisse tomber.
C'est une showbiz.
Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter et raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Lève ma main sur ma femme pour la mettre ensemble. Est-ce que je lui dirais que c'est elle qui me fait perdre la raison? Est-ce que je glorifierais avec mes potes de faire des tourmentes? Et je dirais que c'est cette sale pute qui était consentante? Est-ce que je suis combré en soirée à cette meuf provocante? Jouer le mac et faire le canard avec ma femme dès que je rentre? Est-ce que je dirais que c'est belle et bien elle qui m'avait chauffé? Je suis pas coupable de viol et que c'est elle qu'on doit coffrer? Est-ce que j'aurai le trophée du beau gosse, du player? Et qu'en termes d'adultère, je serais fier d'être le meilleur? Est-ce que je lui dirais que j'aime pour pouvoir la soulever? Quand elle me dira je suis enceinte, est-ce que plus qu'un va souvenir? Est-ce que je me dirais qu'avortement est assassinat d'un monde? Je m'en mettrais en question après d'être père d'assumer ce rôle si j'étais un homme. Est-ce que je penserais que la femme n'est rien sans l'homme? Ou au contraire que la femme est l'avenir de l'homme? Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter et raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Souffrir, se dévouer, subir, subir. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire, suffire. Aimer, souffrir, se dévouer, subir, subir.
Allô?
Oui, allô?
Bon, attends, faut quand même dire à nos auditeurs et nos auditrices qu'on a reçu un coup de fil, parce que nous, on est au courant, mais les autres, ils savent pas.
C'est pour l'effet de surprise.
Bonsoir, Emilien.
Bonsoir, bonsoir à vous. Du coup, voilà, je voulais déjà vous remercier, parce qu'en fait, si j'ai pu... en fait, voilà, j'ai fait une vasectomie il y a quelques jours, et en fait, c'est un peu grâce à votre émission, entre autres.
Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Moi, je m'en réjouis vraiment. Parce que tu nous avais écouté, puis que tu avais entendu ce qu'on avait dit dessus, puis ça t'avait motivé, c'est ça?
Ouais, voilà, bah, je dirais à la fois ça m'avait motivé. En fait, j'ai eu une première expérience, disons, il y a 5 ans, où j'étais très motivé pour faire une vasectomie. Ça se passait à Grenoble. Mm-hmm. Et je sais pas si vous voulez que je vous raconte tout de suite.
Ah bah vas-y, raconte-nous tout, hein.
Voilà. Et ça avait été super galère, en fait. C'est-à-dire que on devait être en 2003-2004, la loi qui venait de changer, c'était en 2001. La plupart des urologues que j'avais rencontrés, en fait, n'étaient même pas au courant de la loi ou faisaient comme si, donc me disaient non, c'est une mutilation volontaire, on peut pas le faire, et si on accepte de le faire, c'est que c'est à 35 ans et un enfant. Bon, moi, à cette époque-là, j'avais 23 ans, je crois, et pas d'enfant. Donc, ils faisaient un peu les grands yeux quand je venais les voir.
D'accord, et parce que par exemple ce truc de dire 35 ans et un enfant, c'est que l'ancienne loi c'était comme ça, tu sais ça?
Je sais pas si c'était texto comme ça, enfin vraiment s'il y avait un texte qui disait bon bah en tout cas la pratique semble, enfin de ce que j'ai pu en comprendre la pratique c'était ça.
D'accord.
Ça l'est toujours plus ou moins d'ailleurs, mais je saurais pas dire si dans les textes, je crois quand même que le fait qu'il n'y ait pas eu d'enfant, enfin disons le médecin était, la vasectomie était autorisée, à la limite était presque même pas autorisée quoi, c'était presque une dérogation si on avait un enfant ou un truc comme ça, enfin je veux pas dire de trop de bêtises, mais en tout cas clairement avant la loi, avec mon profil, c'était grillé quoi. Et là, je m'étais dit, bon, bah voilà, avec cette nouvelle loi, je vais pouvoir quand même faire cette démarche. J'avais rencontré des hommes qui l'avaient fait. Enfin, j'étais allé au Québec et j'avais rencontré des hommes qui l'avaient fait. Bon, ils étaient beaucoup plus âgés, ils avaient des enfants, mais ça m'avait donné envie de le faire. Voilà. Et disons, du coup, ça avait été bien galère parce que bah, les médecins, en fait, à chaque fois, refusaient de me donner les infos au téléphone, à savoir s'ils acceptaient ou pas pour mon profil. Et il fallait que je me tape les consultations, payer 30 euros, enfin voilà, à chaque fois.
D'accord. Et ça, c'est pour ça que tu parles d'arnaque dans ton mail, que, du coup, où il y a eu un autre truc vraiment arnaque.
Ah ouais, non, ça, à la limite, je dirais, c'était courant. J'essayais d'en avoir le plus au téléphone, mais le pire... Ça a été, enfin, j'ai dû faire une dizaine d'urologues sur le bassin grenoblois et même chambérien.
Waouh! Quel courage!
Ouais, j'étais bien motivé. Et pour finir, à tomber, je sais pas si on peut citer des noms.
Des noms d'urologues, moi, s'ils sont particulièrement pas cool et tout, moi, je pense que c'est bien de les déconseiller. Ouais, enfin, moi, ouais, j'ai pas de problème avec ça en tout cas.
Non plus. Ok, bah la clinique des Cèdres, le docteur Mollier.
D'accord.
Voilà, que j'ai vu une première fois, qui m'a dit revenez dans un an, vu votre âge et tout ça, enfin il m'a si dans un an vous êtes toujours motivé, bon ben je vous le fais. Sachant que le délai de réflexion théorique c'est de 4 mois, mais bon je m'étais dit allez, c'est le seul qui m'avait ouvert une petite porte. Donc du coup je me suis dit bon ben je vais me repointer au bout d'un an et voilà, bon je suis revenu au bout d'un an. Et du coup, j'ai commencé à signer les papiers, consentement, etc. Délai de réflexion de 4 mois se passe. Il me fait faire une autoconservation de sperme au Sécos. Donc ça coûtait quand même en 2004 150 euros. J'étais chômeur.
Obligatoire.
C'est dans la loi, c'est pas obligatoire, mais lui, il avait posé comme condition et comme c'était le seul qui avait accepté, ben. Je me suis dit, allez, je fonce. Donc, du coup, j'ai payé ça. Et alors, là où j'ai commencé à me dire, ça sent le roussi, c'est quand il m'a demandé, en plus, alors qu'on avait convenu de pas du tout de tout ça, d'aller voir une psychologue au Sécos.
Une psychologue quoi ?
Une psychologue du Sécos, quoi.
C'est quoi le Sécos ?
C'est ce qu'on appelle plus couramment la banque du sperme. Mais
ah pas, oui, oui.
Je sais plus les initiales. Je saurais plus d'ovulation. De conservation, des. Enfin, bon, je sais plus trop.
C'est drôle comme nom, le Sécos.
Ouais. C'est CECOS et je sais plus exactement à quoi ça. Centre. Et du coup, on se retrouve, c'est un peu space aussi, du coup, parce qu'on se retrouve en fait avec des gens qui ont des problèmes de fertilité, on veut faire une vasectomie, on se retrouve dans le même coin.
Ah ouais, bah ouais, ça. Ouais. Pour te faire culpabiliser, il n'y a pas mieux, quoi.
Voilà, la salle d'attente, c'est sympa. Et du coup, j'ai quand même eu droit à 9 consultations de psychologue.
Waouh!
Au bout d'un moment, la psychologue, je lui ai dit, bon, je sentais bien que c'était mort, mais je disais, bon, enfin, je sais pas ce que vous allez mettre dans votre rapport, mais là, je veux bien vous parler de mon rapport avec mes parents, mais j'en ai un peu marre, et franchement, enfin, voilà, quoi. Au bout d'un moment, enfin, en plus que j'étais contraint, c'était pas très cool. J'avais pas vraiment envie de ça. Et au final, 2 mois après, je reçois une lettre très très courte de ce docteur qui me dit, pour des raisons personnelles, je ne veux pas vous opérer, vous pouvez vous adresser à un de mes collègues.
Non.
Voilà, ça c'était ma première expérience en 2004. Donc à Grenoble, j'en suis ressorti, j'ai même écrit à l'ordre des médecins suite à ça, parce que je me suis dit, enfin quand même, ils se foutent de moi, quoi. Ils se disent, enfin en gros, le petit jeune, je vais l'avoir, voilà. Et j'étais quand même bien remonté, et le conseil des médecins, bon, je savais pas que c'était aussi réac, sinon j'aurais même pas essayé, mais a dit non, notre collègue a fait un choix qui l'honore, voilà.
Qui l'honore ?
Ouais, c'est les mots du conseil, et après, qui n'avait pas compris ma demande, moi je demandais juste à être remboursé en fait.
Des consultations, tout ça ?
Des consultations, et puis l'autoconservation de spermocécos, qui sinon, je l'aurais jamais fait sans ça, quoi. Donc,
Ah ouais.
Et donc ça, c'était mon truc qui m'avait bien refroidi. Je m'étais dit, bon, c'est peut-être pas... surtout que, bon, disons que je suis aussi convaincu dans la sexualité, les pratiques de pénétration, c'est pas non plus forcément ce qui me plaît le plus non plus, c'est pas la panacée, tout ça, donc l'intérêt pratique, on va dire, était pas non plus... c'était plus pour moi me dire, j'aurai jamais d'enfant, paf, je veux le faire, c'est important aussi, enfin... Voilà, j'ai du mal à expliquer comme ça, mais... Et du coup, bon, ça a fait que j'ai laissé passer 5 ans comme ça, sans trop y repenser, en fait, jusqu'à réentendre votre émission. Enfin, entendre votre émission, où vous parliez de vasectomie, disons, j'avais été surpris par ce que j'avais perçu à ce moment-là comme, disons... comme un truc relativement facile. Enfin, c'est comme ça que je l'avais perçu. Par rapport à mon expérience, ça collait pas trop. Et je me dis, peut-être que ça a changé depuis.
Mais c'est surtout qu'on aimerait bien que ça soit plus facile. Alors, je pense qu'on essaye d'être persuasive.
Non, mais c'est cool. Hein. Enfin, moi, du coup, ça m'a redonné la paix. Je veux dire, si on m'avait dit, ça a pas changé. C'est le même truc qu'il y a. Enfin, ça se trouve, ça a pas changé, mais j'ai peut-être eu de la chance. Du coup, j'ai fait ça un peu mieux qu'il y a quelques années. Je suis allé voir le planning familial, ce que j'avais pas fait il y a quelques années. Et je suis allé... j'habite à Toulouse maintenant, à la clinique du Languedoc, le docteur Tolon. Mm-hmm. Là, je le dis comme ça, s'il y en a qui sont intéressés. Il a vu... Enfin, je lui ai amené les papiers que j'avais signés il y a quelques années et je lui ai un peu raconté tout ça. Il m'a pas fait la leçon de morale, il m'a juste expliqué la loi, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème et que vu que j'avais fait toutes ces démarches il y a quelques années, c'était bon, les réflexions, il était largement passé.
Waouh, c'est cool,
c'est sympa.
Ouais, c'était même un peu stressant parce qu'il m'a dit du coup, c'est bon si vous voulez, on fixe la date, dans un mois c'est bon. Ah oui, d'accord. J'ai un peu sous le choc, du coup je m'attendais pas que ça marche et que ça soit si rapide. Du coup c'était il y a 5 jours que ça s'est passé l'opération.
D'accord, et c'était quoi comme méthode qu'il a faite chez... Comment ça se passe l'opération
Alors ça,
si t'as envie de raconter, hein, c'est pas...
Je dois avouer qu'en fait, quand j'ai eu la consultation, j'étais tellement sur un nuage que j'ai rien capté. C'est un peu vrai. Et si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué, en gros, c'est... il sectionne carrément un bon bout du canal déférent. Mm-hmm. Il le coupe à deux endroits, mais si j'ai bien compris, il y a genre 3 cm entre les deux bouts du canal déférent. Enfin, c'est pas juste coupé, quoi. C'est coupé, en plus, il y a de la distance, donc si ça repasse, c'est vraiment pas de bol.
D'accord. Ouais, il n'y a pas trop de chance pour que les deux bouts du canal ils se rejoignent et ils essayent de se reconstituer ensemble, quoi.
Ils sont limite, si j'ai bien compris, ligaturés deux fois et coupés en plus en milieu. Enfin, il y a vraiment pas trop de chance que ça passe, quoi.
D'accord. Et au niveau des remboursements, du coup, comment ça se passe, en fait, concrètement ?
Ça aussi, c'était super classe. Parce que, je l'ai fait sous anesthésie générale. J'ai quand même été... ça a dû commencer vers les 8h du matin. Je suis sorti vers midi. Et pourtant, j'ai pas payé quoi que ce soit. Bon, je suis à la CMU complémentaire. Mm-hmm. Et j'ai déboursé 0, quoi.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais, à savoir, j'ai pas fait l'autoconservation de spermocécos,
celui-ci. Ouais.
Donc je sais pas si quelqu'un qui serait même à la CMU complémentaire, si la personne va faire une autoconservation de spermocécos, je sais pas s'il doit débourser quand même de l'argent.
D'accord.
Sachant que ça coûte quand même 150 € de départ, plus 30 € pour le maintenir chaque année, donc c'est quand même un coût.
Plus 30 € par an, en fait, tu sais combien de temps après c'est utilisable? Enfin, pour comme ça, par curiosité, hein.
j'avoue que j'ai aucune idée. Ouais. Comme ça m'intéressait pas du tout, en fait, que j'étais obligé de le faire, je l'ai plutôt subi, que vraiment, je me suis plutôt renseigné sur la loi, que vraiment, là-dessus, non, je sais pas du tout.
D'accord. Et c'est cool ça, et ça se passe bien là, tu te remets bien de l'opération
Ouais, ça se passe super bien en fait, c'est vraiment bénin quoi, même le jour même, enfin c'est vraiment deux incisions, genre d'un centimètre sur le côté des testicules, enfin de deux côtés, bon c'est pas vraiment méchant, avec genre un point de suture qui se résorbe, enfin il n'y a pas besoin de le faire enlever quoi, ça s'enlève tout seul. Donc c'est pas trop méchant, quelques médocs pendant quelques jours pour le cas où il y a la douleur, mais enfin j'ai dû les oublier, il n'y avait rien, c'était pas trop... Faut juste éviter de faire un peu de sport en ce moment, ce qu'on m'a dit.
D'accord.
Donc j'évite les kilomètres en vélo, mais à part ça, c'est pas trop méchant.
Et du coup, il y a ce truc aussi de pendant 3 mois, t'as encore des spermatozoïdes, et du coup il faut quand même que tu utilises une contraception pour... Enfin, si t'as des pratiques fécondantes ou qu'est-ce qu'on t'en a dit Parce que moi, il me semble que après une opération, enfin, ça doit peut-être dépendre des méthodes, hein, mais qu'il y avait 3 mois pour qu'il n'y ait plus de spermatozoïdes actifs.
Alors moi, ce qui m'a été, on m'a dit à peu près la même chose. Ce que m'a dit l'urologue, c'était que donc il y a un spermogramme qui est prévu pour dans un mois, enfin un peu moins maintenant. Pour vérifier si théoriquement ça peut déjà, au bout d'un mois, ça peut déjà avoir fonctionné. Il m'a dit qu'il y a 90% du temps ça marche au bout d'un mois, et qu'effectivement si ça n'a pas marché au bout d'un mois, bah faut refaire un spermogramme dans 2 mois plus tard, donc dans les 3 mois après l'opération, pour être certain qu'il n'y a plus du tout de spermatozoïdes. Mais si le spermogramme est il n'y a plus de spermatozoïdes au spermogramme dans 3 semaines, je suis déjà fertile. Stérile.
Et je sais pas, peut-être que...
Moi je me pose la question de pourquoi l'anesthésie générale. J'avais un souvenir que c'était plus en anesthésie locale, mais peut-être il y a une explication toute.
C'est le médecin qui m'a conseillé de le faire. Et j'avoue qu'en fait, à la réflexion, quand il m'a proposé ça, j'étais pas trop contre, parce que je m'ai déjà fait enlever des vis pour une fracture à la cheville, et j'avais déjà trouvé ça un peu bizarre en anesthésie locale. Alors là, je m'étais dit, ça va pas trop le faire et tout, enfin, bon... Voilà, donc je préférais quand même être endormi. Je me suis dit, ça va être plus sympa. Voilà.
Oui, je comprends.
Mais ils me laissaient le choix entre les deux. Enfin, je veux dire, si j'avais préféré l'autre, ils me disaient qu'ils avaient un peu plus de chances de rater des fois parce que les gens étaient un peu nerveux ou quoi.
Oui. D'accord, du coup, il y avait le choix.
D'accord. Ouais.
Et du coup, parce que nous, sur notre petite fiche, parce qu'on a quand même des petites fiches hein, sur comment ça se passe et tout ça, nous, ce qui a marqué, c'est que c'est en un quart d'heure, tu vois. Alors, quand tu nous dis que c'était de 8h à midi, mais du coup, c'est sûrement lié à l'anesthésie générale que ça prenne une demi-journée, quoi.
Ouais, après, c'est clair que ça rajoute du temps. Mais je pense qu'en fait, entre l'admission et l'opération en elle-même, elle doit toujours durer un quart d'heure. Après, j'imagine que c'est un peu plus court si on fait une anesthésie locale, mais ça doit quand même prendre plusieurs heures, je pense.
D'accord. Et sinon, peut-être tu as envie d'expliquer les raisons qui t'ont amené à faire cette opération, les retours que tu as autour de toi, de ce choix par rapport à ce choix-là.
Les raisons... C'est pas toujours évident parce que disons j'ai jamais voulu avoir d'enfant, ça c'est clair et net. Après il se trouve que il y a plusieurs années je ne prenais pas vraiment mes responsabilités par rapport à la contraception. Et à cause de moi une personne a fait une IVG. En gros, c'est à peu près 1 an et demi suite à ça que j'ai rencontré pour la première fois quelqu'un qui avait fait une vasectomie et que je me suis dit, ah ouais, quand même, ça pourrait être pas mal. Donc voilà un peu sur le, enfin comment ça m'est venu. Après les raisons profondes et tout ça, je me dis, enfin j'ai vraiment pas envie d'avoir d'enfants, c'est un truc dont je suis persuadé, dont je suis sûr depuis des années et tout. Et ouais, j'aimais bien cette idée que qu'à un moment donné je faisais un choix définitif par rapport à ça. Il y a des gens que que ça effraie plutôt, moi ça m'attire au contraire, donc je trouvais ça assez chouette. Voilà, de dire je pose les choses une bonne fois pour toutes. Voilà, bon bah j'ai 28 ans, je sais que j'aurai jamais d'enfant et ça me plaît comme ça. Enfin, jamais d'enfant de mon sang en plus. Enfin, après voilà.
Et du coup, comment c'est vécu par les gens avec qui t'en parles, enfin ou depuis toutes ces années d'ailleurs, puisque vu que ça fait un certain nombre d'années que t'avais cette volonté là. Enfin, et de faire cette opération et de pas vouloir d'enfant, puisque, enfin, je sais pas. Est-ce que c'est, enfin après ça dépend peut-être un peu aussi des gens qui t'entourent, hein, mais des fois c'est pas forcément évident. Moi je trouve dans la société d'affirmer ce choix là, quoi.
Bah ouais, carrément c'est assez contrasté en fait selon les gens. Avec qui, pour les amis proches, ben comme c'est des amis proches, ça se passe plutôt bien en fait. Ben ils ont pas forcément, enfin la même démarche, mais loin de là. Mais ouais, enfin bon, ça, il y a pas vraiment de problème. Après, c'est plutôt si je suis amené à en parler de façon plus comment à des gens que je connais moins. Bah déjà, le fait d'expliquer en fait le pourquoi, c'est assez chaud, je me rends compte. C'est bizarre, hein, mais finalement, je me dis, si on posait la question à l'envers, y a beaucoup de gens qui seraient peut-être incapables de répondre aussi. Genre, pourquoi est-ce qu'on veut un enfant? Wow, enfin, c'est le pourquoi. Bon, on sait à peu près comment on en vient là et tout, mais des fois, pourquoi c'est un peu. J'avoue que je sais pas trop pourquoi je veux pas d'enfant. Enfin, après, j'ai plein d'idées, hein, y a pas de problème, mais voilà. Et du coup, c'est un peu plus ça qui me pose problème des fois, c'est de voir. S'il y a des gens, par exemple, surtout, bon là, avec des urologues, c'était assez chaud parce que il fallait que je me justifie, donc que je produise un discours vraiment assez argumenté. Et j'avais du mal, en fait, à vraiment dire. Enfin, et puis si je commençais à rentrer dans le truc, oui, mais bon, c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai pas forcément des pratiques de pénétration et donc j'en ai pas forcément un besoin. Enfin, bon, ça, bien sûr, je le disais pas. Du coup, c'était assez chaud, même à expliquer, en fait. C'est plus, je sais pas, le truc de vraiment pas vouloir d'enfant et le marquer une bonne fois pour toutes, quoi. Enfin, ça me plaisait bien, et avec l'idée aussi que du coup bah je prends ma responsabilité par rapport à ça, sachant que je le veux, quoi. Voilà. Mais du coup, ça répond pas bien à la question, je crois.
Bah non, si, non, mais si, t'as donné plein d'éléments, hein, ça c'est sûr, hein. Puis après, bah de toute façon, c'est un sujet en soi, hein, de décortiquer les réactions des gens face à d'autres personnes qui ne désirent pas d'enfants, les réactions face aux hommes qui veulent pas d'enfants, face aux femmes qui veulent pas d'enfants, ce qui est un peu aussi différent souvent.
Bah, différent, mais au final pas si différent. J'ai l'impression que c'est que pour ça les raisons d'incompréhension ou d'opposition sont souvent un peu les mêmes, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes.
Moi, j'ai l'impression que la pression à la maternité est plus forte, enfin la parentalité est plus forte pour les femmes que pour les hommes. Mais peut-être moins aujourd'hui, hein, mais si t'es une femme et que t'as pas d'enfant, t'as raté ta vie, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment très prégnant, ça. Alors c'est plus accepté pour des hommes. Mais après, je dis pas que c'est pas forcément facile pour des hommes d'assumer ce choix-là, hein.
Bah, j'ai l'impression que c'est un peu différent du coup, enfin même si enfin que c'est assez différent de qu'un homme qui dit j'ai pas d'enfant de fait ou j'en veux pas spécialement, que de dire je suis allé jusqu'à faire une opération du style vasectomie et tout, là c'est un peu plus ça devient un peu plus space en fait dans la tête de pas mal de gens, genre ah ouais, mais enfin après il y a toujours tout de suite la question, mais tu sais si tu changes et tout ça, enfin qu'on m'a renvoyé à la tête plein de fois et qui fait flipper vraiment, parce que du coup j'ai eu comme une grosse montée de flip le lendemain de l'opération suite à ça, parce que enfin il se trouve que le médecin avait resoulevé cette question là et mine de rien ça c'est bête, mais ça arrive à faire un peu angoisser, quoi.
Ouais, ça te travaillait quand même, quoi.
Une petite heure.
Mais comme tu l'as dit si bien, tu n'auras pas d'enfant de ton sang, enfin en tout cas de ton sperme. Et enfin, je veux dire, si un jour tu aurais envie d'être, enfin t'as envie, puisque tu l'as jamais eu cette envie d'être parent, bah il y a plein de manières d'être parent. Et...
ouais.
Et enfin, du coup, moi, c'est peut-être un truc que, enfin, ou en tout cas, pas forcément à toi, parce que t'as. Enfin, t'as l'air de t'être déjà posé la question, mais à d'autres garçons qui se poseraient la question, ou à d'autres femmes aussi qui se posent la question de la stérilisation, sur ce truc de quoi répondre à un médecin ou à quelqu'un qui te dit oui, mais tu vas le regretter un jour, peut-être tu changeras, tatati tatata, dire que bah de toute façon c'est pas faire des enfants, c'est pas forcément par ces voies-là que c'est obligatoire, quoi. Enfin, si jamais,
c'est vrai que ça peut être un élément de réponse face à.
Et en plus, si on inverse le truc, je trouve ça assez ignoble, en fait, parce que les gens disent pas à ceux qui font des enfants, ouais, mais si vous le regrettez.
C'est là, clair.
C'est horrible, quoi. On peut regretter une vasectomie, au pire, c'est soi qui est concerné, c'est pas très, enfin, je veux dire, ouais, ça, au pire, voilà, c'est pas très grave. Par contre, regretter de faire des enfants, ben, ça, on le pose moins, et c'est quand même, enfin, même pour des gens qui en ont vraiment eu envie, je veux dire, c'est, on le pose pas de façon aussi angoissante, quoi, c'est.
C'est clair. Retournons les questions. Bon, t'as d'autres trucs à dire, à nous raconter, à nous, je sais pas, d'autres des questions à nous poser.
Ben, là comme ça, ça me vient pas tout seul, mais ben, en tout cas, je voulais vous dire encore, ben, encore merci d'exister, parce que ça donne la pêche votre émission aussi. Enfin, bon, en l'occurrence pour ça. Aussi. Et puis un petit merci au planning familial de Toulouse. Du coup, ouais. Ils ont été vachement sympas quand je suis venu les voir.
D'accord. Bah ouais, c'est toujours effectivement, on l'avait déjà conseillé de quand on a ce type de demandes qui sont pas forcément très admises et socialement et médicalement, bah des fois d'aller voir le planning familial, bah c'est des bonnes intermédiaires, ils ont des bonnes adresses et tout ça.
Et même à Grenoble, je pense qu'ils en ont.
Oui,
aujourd'hui.
Oui, mais il y a tout. Moi, effectivement, il y a des conseillères du planning qui ont bossé sur la question de la stérilisation et voilà. Ben peut-être on va faire une petite pause, hein, quand même, parce qu'on a beaucoup parlé et on pourrait s'écouter une petite musique.
Eh bien, merci de ton appel, Emilien. Et puis peut-être à bientôt.
Merci à vous.
Ne raccroche surtout pas. Entreprends en technique. Au revoir.
Au revoir.
Oui, d'accord. Oui. See you. Donc ben voilà, on n'a pas eu le temps de vous dire ce qu'on allait écouter, mais par contre on a eu le temps de faire des blablabla sur la musique au début. Donc c'était You Really Got Me de Robots in Disguise. Voilà, alors il est toujours temps de nous appeler aussi hein, au 04 76 09 09 09. Du coup, en attendant que quelqu'un d'autre nous appelle, on va vous lire un petit message de forum. Enfin, pas si petit que ça, d'ailleurs. Pour essayer un peu de discuter d'un tout autre sujet, vous verrez.
Suis-je asexuelle ? Ça fait un petit moment que je lis ce forum avec intérêt et j'espère que vous allez pouvoir m'aider à définir mon rapport à la sexualité. J'ai 26 ans, je suis avec mon copain depuis 6 ans, il a mon âge. On s'entend bien, on passe de bons moments ensemble, nous avons des projets, etc. La seule chose qui ne va pas, vous l'aurez deviné, c'est la sexualité. Bien sûr, au début, j'étais assez attirée par la chose, mes hormones sans doute. Et au bout de 8 mois de petits bisous et préliminaires en tout genre, on est passé à l'acte. Notre première fois à tous les deux. Assez décevant sur le plan physique, mais j'en garde un bon souvenir sur le plan émotionnel. Il avait l'air d'être le plus heureux des hommes. Sauf que les années passent et on ne peut pas dire que ça soit vraiment amélioré. Du coup, comme c'est pas génial, j'ai l'impression que je commence à me désintéresser complètement de la chose. Même pire, des fois j'ai l'impression que ça me dégoûte. On ne fait vraiment l'amour que une ou deux fois tous les mois environ, et ce rythme ne convient pas à mon copain. Je trouvais qu'il exagérait jusqu'au jour où j'ai appris que la moyenne est de 3 fois par semaine. Même si je sais que ça doit pas être une référence absolue. Alors je me demande ce que les gens y trouvent de si génial pour le pratiquer aussi souvent. Ça me dépasse complètement. Je suis aussi choquée d'entendre ou de lire, sur ce forum par exemple, que la sexualité est très importante pour le couple, qu'un couple sans sexe n'a pas d'intérêt d'être, que la sexualité est indispensable à l'épanouissement personnel. Mais pourquoi donc ? Je me pose de plus en plus de questions. Pourquoi ce décalage entre moi et les autres ? J'ai vraiment l'impression de passer pour une extraterrestre quand j'entends les autres parler de sexe. Par exemple, pour moi, 10 jours sans sexe, c'est pas la fin du monde, alors que pour certains, c'est la catastrophe. Est-ce que ça veut dire que mon couple est voué à l'échec ? Merci de m'aider à y voir plus clair.
Eh ben, ouais, plein de questions. Hein. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai envie de répondre à cette personne que j'ai, effectivement, des fois, la sexualité, c'est pas toujours simple. Après, le titre qu'elle donne à son message, c'est « Suis-je asexuelle ?» Je pense qu'avant de répondre à cette question, il faut peut-être d'abord réfléchir à sa pratique et pas forcément être dans la comparaison avec les autres.
Savoir ce que c'est aussi.
Voilà, enfin, je veux dire, je sais pas, on peut... Peut-être que même malgré toutes ces années, elle a peut-être pas essayé plein de choses, voir si ça, il y a d'autres trucs qui l'intéressaient ou je sais pas, qu'est-ce que t'en penses
Moi, ça me pose la question de qu'est-ce que c'est être asexuel.
Oui, c'est quoi être asexuel? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment défini ce que c'est. Ouais. J'ai pas forcément envie de répondre tout de suite à ça parce que je me dis que. En fait, comme vous allez le voir tout à l'heure, on va vous raconter, mais j'ai l'impression que la situation, elle est pas si claire que ça, parce que elle dit qu'au départ, elle en avait envie. Juste dire un mot, la sexualité ou les personnes asexuelles, c'est les personnes qui n'éprouvent aucune attirance pour le sexe, on va dire. Mm-hmm. Ou c'est l'état d'une personne qui ne ressent pas le besoin de s'engager dans une relation sexuelle avec une autre personne. Ça, c'est une définition. Ouais, ça n'était pas bien, ma première définition. Voilà. Donc, j'ai pas l'impression que c'est vraiment le cas parce que, enfin, j'ai l'impression que le sexe ne l'intéresse pas, ne lui fait pas plaisir, mais peut-être qu'elle est asexuelle, mais peut-être que c'est d'autres facteurs qui font que ça lui fait pas plaisir, par exemple.
De ce qu'on a l'impression de voir, c'est qu'elle s'en désintéresse. Comme elle dit, ça commence à me désintéresser et même à me dégoûter. Du coup, c'est vrai que ça fait plutôt penser au fait que ce soit ses expériences qui ne soient pas améliorées et que ça ne lui apporte pas vraiment de plaisir, qui fasse qu'elle n'en ait pas envie. Moi, c'est un peu ce qui m'apparaît.
Moi aussi, au premier abord, c'est vrai que du coup, j'aurais plutôt envie de lui conseiller d'expérimenter des choses avec son copain ou avec d'autres personnes aussi, ou
et
toute
elle-même.
Seule. Exactement, surtout. Toute seule déjà. Et puis que après, c'est quoi la sexualité? Là, elle ne détaille pas trop qu'est-ce qu'elle rappelle. Enfin, qu'est-ce qu'elle entend par on fait une fois tous les deux mois l'amour? Mais faire l'amour, c'est, ça peut être plein de choses différentes. Hein. Bon, on le répète assez comme ça sur Calibre, hein, mais c'est pas forcément un coït tac-tac.
Muni de 45 minutes de préliminaire ou 25.
Voilà.
C'est très réglementé.
Enfin, ça peut être plein de choses, quoi. Donc,
je pense qu'elle sous-entend un rapport avec préliminaire plus coït.
Ouais.
Comme il est souvent admis. Mais peut-être pas. Mais peut-être que déjà, voir autre chose, ça l'aurait.
Oui, après, aussi, moi, quand on dit là, on est un peu dans les sous-entendus. Alors, enfin, moi, déjà, par exemple, cette idée de préliminaire, j'aime pas trop ça, parce que c'est comme s'il y avait des choses qui préparaient à la pénétration. Et donc, bah, ce qu'on entend souvent derrière préliminaire, savoir le sexe oral, et puis le sexe avec les doigts ou avec les mains et tout ça, bah, c'est la sexualité en soi aussi, quoi.
C'est ça.
Et du coup, c'est vrai qu'à se dire que ça n'est là que pour préparer le vagin à la pénétration, bah, je pense qu'on n'est pas dans la même dimension de plaisir.
C'est vrai. C'est vrai. Mais que bon, ça fait partie en soi de l'acte sexuel et qui peut même... moi non plus, je ne suis pas forcément avec ce terme de préliminaire. Mais bon, c'est souvent comme ça qu'en général, j'ai l'impression que c'est décrit. Du coup, j'imagine que c'est ça qu'elle met derrière. Après, peut-être pas. Elle donne pas suffisamment d'éléments pour qu'on sache exactement ce qui pratique ou ce qui lui plaît pas, lui plaît moins aussi. Et peut-être qu'il y a certaines parties qu'elle affectionne plus que celles qui ne les intéressent pas. On n'arrive pas trop à savoir, mais je pense que oui, le fait qu'elle dit, comme elle dit, j'ai l'impression que ça m'en désintéresse. Elle le dit vraiment. Hein. Du coup, comme c'est pas génial, j'ai l'impression que je commence à me désintéresser complètement de la chose. Même pire, des fois, j'ai l'impression que ça me dégoûte. Du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est lié, qu'elle a la réponse à sa question, en fait, dans sa question. C'est que c'est les pratiques sexuelles qu'elle a actuellement qui la satisfont pas et qui font qu'elle en a pas envie. Mais c'est un truc qui se comprend et je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme ça. Enfin, je sais que ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé. Et que, en essayant d'autres choses aussi, et puis en travaillant sur soi et avec son ou ses partenaires, elle peut arriver à trouver des choses qui la satisfont.
Oui, puis effectivement, quand tu dis avec son partenaire ou ses partenaires, on discutait aussi de ça. Mais en tout cas, elle pose la question à la fin de est-ce que mon couple est voué à l'échec, tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'elle culpabilise en fait de cet état de fait. Et en tout cas, moi, j'aurais envie aussi de lui dire qu'il y a des gens qui existent et qui se revendiquent comme asexuels et pour qui c'est pas du tout un problème et on a le droit aussi. Enfin, on n'est pas obligé d'aimer le sexe et voilà quoi. Alors peut-être on va expliquer un peu plus c'est quoi la sexualité. Alors comme j'ai déjà donné un peu la définition, mais en gros, c'est, ça fait déjà depuis un moment, hein, même je dirais de ce que j'ai lu depuis le début du siècle, que dans les recherches ils se sont aperçus qu'il y avait des personnes qui n'éprouvaient pas ce besoin de besoin sexuel en fait, assez minime, enfin la part de la population assez minime, mais quand même existante quoi. Mais bon, en même temps, ils se sont pas non plus trop préoccupés de cette question-là quoi. Mais depuis 2001, il y a un réseau qui s'est constitué et qui, je pense, a un peu visibilisé plus les asexuels et qui fait que aujourd'hui les recherches sont reparties en fait sur cette question-là. Et alors, c'est un réseau qui s'appelle AVEN, pour Asexual Visibility and Education Network. Donc c'est un Américain qui a monté ça avec il avait deux buts. C'était bon, lui du coup c'est une personne asexuelle et il avait envie de en même temps de favoriser une reconnaissance publique et faire parler de la sexualité, asexualité, c'est pas très difficile à la radio hein, de faire la différence, et en même temps de faire croître une communauté en fait, de façon à ce que ces personnes-là, elles se trouvent pas seules, désemparées devant leur manque, enfin en tout cas leur non besoin sexuel, enfin leur non besoin sexuel
ou non envie,
voilà, enfin quand je dis manque, vous avez pas vu mais j'ai fait un grand sourire en mettant
des guillemets
c'est parce que je voulais effectivement pas utiliser ce mot là puisque ça voudrait dire que enfin ça fait référence à une norme où tout le monde devrait avoir ce besoin sexuel quoi. Et voilà. Et du coup, ça a bien marché. Donc maintenant, ils ont un site qui est en 10 langues, enfin traduite en 10 langues, un truc de fou, quoi. Et du coup, c'est une source d'information pour les personnes asexuelles, mais aussi pour tout un tas de gens qui s'intéressent à la question. Et aussi un endroit de rencontre, en fait, où voilà, ces personnes elles peuvent communiquer, se rencontrer, s'aimer, voilà. Donc leur site, c'est www.asexuality.org/.fr pour la version francophone. Voilà. Je voudrais peut-être vous lire une petite phrase qui est sur leur site et que je trouve qui dit bien un peu leur état d'esprit. Nous ne sommes ni des frustrés, ni des asociaux, ni des onanistes solitaires. Nous. Excusez-moi. Nous. J'arrive pas à me relire. Nous aurions le choix de mener une vie sexuelle active, mais ça ne nous dit rien. Nous n'avons aucune pulsion sexuelle. Nous sommes nés comme ça. Nous vivons heureux et nous voulons être considérés comme des gens normaux. Voilà. Donc, c'est un peu... Pour remettre en question l'idée que quand t'as pas de désir sexuel, t'es anormal et t'es malade et tout ça. Et voilà. Et ils ont comme revendication de faire reconnaître la sexualité, comme orientation sexuelle avec l'homosexualité, l'hétérosexualité. Voilà. Et non pas comme... je sais pas comment finir ma phrase, en fait.
Moi, ça me fait penser, dans la citation où il dit « Nous sommes nés comme ça », il me semble tout à l'heure, quand on en parlait, où tu me disais que ça pouvait être aussi momentané. Et des gens qui se considèrent asexuels pendant une certaine période de leur vie, et puis qui après ont à nouveau envie de sexualité, et puis qui ça peut revenir. Ou...
Ouais. C'est vrai que moi, je trouvais que... Enfin, j'ai un peu regardé un peu leur site et tout ça. Et je trouve que pour le coup, ils sont pas dans une position sexe, le sexe est mal et tout ça, ils sont assez libres et en fait pour eux c'est une façon d'exister sans être dans un truc de culpabilisation ou de mauvais regard de la société sur eux quoi, mais ils sont assez libres, enfin ils disent c'est pas parce qu'on est asexuel qu'on n'a pas d'orientation émotionnelle, par exemple. On peut être asexuel, mais aussi homosexuel. Enfin, pas vraiment asexuel, mais homo-asexuel ou hétéro-asexuel. Parce qu'on peut bien aimer être avec des personnes de façon proche.
Oui, ou vivre avec quelqu'un.
Voilà. En tout cas, c'est vraiment sur le truc de la sexualité. Et comme tu dis, Lou... Il y a aussi des personnes qui considèrent que c'est des périodes de leur vie. Voilà, bon, ben, on vous en a dit beaucoup déjà. Si ça vous intéresse, vous auriez qu'à aller voir plus. Je vous dis juste le titre d'un bouquin avant que... Voilà. Je ne l'ai pas lu, mais il est dans une maison d'édition qui diffuse des bouquins pas mal sur la sexualité. Si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire et de nous raconter après, ou si nous, un jour, on l'a lu, qu'on vous en racontera plus. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle... C'est sur la question de la sexualité. Hein. C'est pas un truc comme ça qui a débarqué. Ça s'appelle « No sex, avoir envie de ne pas faire l'amour ». Donc c'est de Peggy Sastre et c'est chez La Musardine et c'est sorti cette année, voilà. Et donc on écoute
Marie Laforêt, Toi mon amour, mon ami.
Toi, mon mon amour, mon ami, quand je rêve c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. Chercher, faire des comparaisons. J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom, toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. Jusqu'où ira l'amour? Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté et j'ai beau résister, je chante parfois à d'autres que toi, un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais plus pourquoi.
Et vous êtes à nouveau sur Calibre 97 FM. Vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09. Et là, on va vous parler un petit peu de l'état des recherches, enfin en tout cas des recherches qui se font sur le plaisir féminin. Et il y a une récente étude sur l'inexistence ou l'existence du point G qui a redéclenché des articles dans la presse, etc. Du coup, je suis tombée sur un état des lieux des recherches un petit peu sur justement l'anatomie et le plaisir féminin, qui nous disent que on en est toujours à peu de recherches, et que ce soit sur l'anatomie ou le plaisir en lui-même, les recherches sont peu nombreuses. Quand il y en a, elles sont peu financées. Et que du coup, les chercheurs qui essayent de creuser dans cette direction sont peu soutenus. Qu'il y a peu de formations universitaires non plus dans ce domaine-là. Et juste comme exemple, on peut rappeler le fait qu'il a fallu attendre 1998 et Hélène O'Connor pour s'apercevoir de comment était fait le clitoris. Alors que depuis le 19e siècle, on croyait qu'il s'agissait d'un petit pénis qui ne servait à pas grand-chose, ou à peine, et où du coup sa forme a été mise en évidence fin 20e siècle, et qu'au 21e, on n'en sait pas beaucoup plus.
Tu fais référence à quoi avec 98 des machins
Hélène O'Connor, bah, c'est une chercheuse qui a du coup travaillé sur la forme du clitoris et qui en a fait un film, Le clitoris, ce cher inconnu, qui donc était publié sur Arte, diffusé sur Arte, il me semble, à l'époque. Et du coup, c'est en 98, voilà, c'est ça qu'elle a fait ses recherches, ou qu'en tout cas, elle les a publiées. Et on l'a depuis quelques années, j'ai appris aussi qu'il y avait deux chercheurs qui, depuis peu, s'intéressaient à nouveau, depuis elle, c'est les deux qui s'y sont remis après elle, sur depuis 2007, là, ça fait 3 ans qu'ils travaillent dessus, sur une sonographie. Alors, je ne sais pas encore exactement, j'imagine que c'est une imagerie médicale, quelle qu'elle soit, du clitoris stimulé, mais où, du coup, ils ont très peu de financement, etc. Et Les dernières recherches, par exemple, qui se font, c'est sur la diminution du désir, que ce soit après la ménopause ou pas, mais surtout après la ménopause, qui commence à peine. Elles ont commencé à se développer après le Viagra, en fait. L'anecdote, c'est que quand le laboratoire qui fabrique le Viagra a voulu commercialiser un Viagra pour les femmes, tant qu'à faire, autant que ça marche sur plus de monde, ils sont aperçus que ça marchait pas et que les femmes n'étaient pas du tout réceptives au Viagra. Et du coup, ils ont recommencé les recherches sur le plaisir, la diminution du désir surtout. Et où, du coup, les quelques choses qui étaient faites et les médicaments qu'on avait, c'était les traitements hormonaux de substitution qui ont été beaucoup pratiqués, puis systématiquement donnés, qui maintenant ont été relativement arrêtés parce qu'il y avait des effets secondaires, y compris des risques de cancer du sein, particulièrement, si je me souviens bien, et où du coup on le fait plus systématiquement, mais ça reste encore en tergiversation sur si on doit le faire ou pas, etc. Et depuis 2 ans, il y a des recherches sur un patch à la testostérone.
Je crois qu'il est commercialisé depuis 2 ans.
Voilà, qui est commercialisé
même,
depuis 2 ans.
Moi, j'avais lu 2007, je crois.
Ouais, bon, ça dépend, 2009-2010, on est encore au début. Mais où, du coup, les effets indésirables, etc., réouvraient aussi un petit peu le dossier.
Ouais, parce que en fait, juste un mot sur le patch à la testostérone, c'est principalement en direction des femmes qui ont une baisse de testostérone liée à la ménopause ou liée au fait qu'on leur a enlevé les ovaires ou l'utérus, parce que les femmes aussi produisent de la testostérone. Mais du coup, et que souvent avec ces opérations-là ou la ménopause, ça s'accompagne d'une baisse de libido. Et du coup, ils se sont dit, ah bah tiens, ça doit être la baisse de la testostérone, on n'aurait qu'à vous mettre un patch. Mais y a effectivement, comme tu dis, Lou, il y a beaucoup d'effets secondaires, de l'acné, des migraines, des prises de poids, des trucs comme ça.
De la pilosité.
Aussi, ouais.
Au niveau du visage.
Et en même temps, l'effet sur la hausse de la libido, elle n'a pas vraiment non plus été vraiment démontrée. Donc bon. On n'en sait pas beaucoup plus, mais bon, voilà. Mais alors, tu parlais du Viagra tout à l'heure, je vais en parler un peu aussi, puisque effectivement, c'est qui fait les recherches, hein ? C'est effectivement plutôt les labos pharmaceutiques, parce que c'est eux qu'on a des sous à se faire, et du coup, ils investissent la sexualité comme autre chose pour pouvoir se faire du blé. Du coup, ils se sont dit, ben mince, il y a le Viagra, c'est cool, mais du coup, c'est un autre labo, c'est pas le même labo que le Viagra qui a fait un peu des trucs là-dessus. Et ils auraient développé une molécule qui s'appelle la flibanserine, qui marcherait directement sur le cerveau, contrairement au Viagra qui joue plutôt sur la dilatation des vaisseaux, des trucs comme ça. Là, ça agirait sur le cerveau dans les zones associées aux émotions et au plaisir. Alors du coup, ça serait un traitement de fond pendant genre c'est à partir de 6 à 8 semaines que tu vois que tu verrais les effets commencer quoi de hausser la libido des femmes. Donc c'est pas encore dans le commerce, hein. J'ai lu plusieurs articles là-dessus et j'ai l'impression que ça doit arriver toutes les années. Alors tu lis en 2008, en 2009 ça va arriver. Maintenant c'est en 2011 ça va arriver. Donc je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais bon, moi je sais pas si je me réjouis vraiment de l'arrivée de ce truc-là. Alors pourquoi ? Parce que j'ai un peu l'impression qu'avec ces trucs-là, en fait, on considère que le désir, c'est une simple fonction physiologique, que bah du coup, on se pose pas la question de pourquoi. Je disais quelque part, 48% des femmes affirment avoir des problèmes de libido. Enfin, vous rendez compte, une femme sur deux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème physiologique. C'est plein d'autres raisons, pour moi, sociologiques, politiques.
Pratiques.
Pratiques aussi, qui font que les femmes, elles prennent pas en charge leur sexualité ou elles sont renvoyées... à des représentations où faudrait surtout pas qu'elles en aient trop non plus de libido, parce que vous rendez compte, si une femme elle a trop de libido, forcément c'est quand même pas terrible, quoi. C'est bref, en tout cas, voilà. À quoi ça me renvoie aussi cette histoire de Viagra féminin là. Je vous donnerai pas le nom sous lequel il va être commercialisé. On va pas faire de pub Viagra, vous connaissez, mais ça, je trouve que du coup ça renvoie aussi à une normalisation du désir, comme s'il y avait une norme. Enfin, il y a des critères, quoi. Alors toi, parce que si un médicament apprend, alors toi t'as pas assez de libido, toi t'en as trop. Puis c'est une maladie. Ça veut dire que on parlait des asexuels tout à l'heure. Si t'as pas de désir sexuel, c'est aussi que c'est pathologique. T'es pas en bonne santé, quoi. Enfin. Mais bon, ce qui m'énerve le plus, on va pas non plus en parler des heures puisque c'est déjà l'heure, mais c'est effectivement, c'est que c'est les labos qui investissent ça juste pour se faire du fric, quoi. Bah, c'est pas pour.
Du coup, il administre à des femmes à qui on a trouvé un trouble parce que ça a quand même un nom. Dans le comment il s'appelle, le livre des maladies, quoi. Et du coup, c'est
Le
trouble du désir sexuel.
Alors, il y en a plusieurs. Il y a le FSD, le Female Sexual Disorder, qui correspond un peu à la frigidité. Genre, vraiment, t'en as pas. Et il y a le HPPS, le Hypoactive Sexual Desire Disorder. Alors, ça veut dire que t'en as pas trop, quoi. Voilà. Donc après, vous imaginez, il y a le normal, on va l'appeler le normal sexual desire, le NSD, et puis après il y a le trop, too much. Non mais vous rendez compte, enfin, non mais je rigole, je suis pas du tout une scientifique, alors peut-être qu'il y a des choses intéressantes à en retirer de ces trucs-là, mais c'est vrai que ça me renvoie à des trucs un peu...
Moi ça me renvoie à tous ces troubles psychiatriques qui sont maintenant inscrits dans ce livre des maladies, je pense à l'hyperactivité. Activité, ça n'a aucun lien avec la sexualité directe, mais qui sont aussi des nouvelles maladies qui apparaissent et qui attendent d'avoir des médicaments et pour lesquelles on prescrit des médicaments et qui sont toute une industrie d'inventer des nouvelles maladies qui n'en sont pas forcément pour pouvoir leur vendre des médicaments. C'est un peu tout c'est un espèce de mouvement général de médicalisation de troubles qui sont pas...
Quand
ce sont pas vraiment des troubles médicaux. Quoi.
Bon, alors du coup, pour conclure là-dessus, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça soit à propos du Viagra masculin ou féminin, moi, il me semble pas que ça soit une solution, en tout cas unique, au problème de dysfonctionnement sexuel, si dysfonctionnement il y a. Mais bon, si ça peut aider, j'ai pas envie non plus de dire que c'est mal si vous vous réjouissez de l'arrivée du Viagra, quoi.
Oui, pas forcément.
Féminin.
Oui, c'est ça.
Bon, peut-être qu'on n'a pas trop le temps de se lancer une dernière petite chanson. On va peut-être juste conclure. Donc voilà, je sais plus ce qu'on dit quand on conclut. Hein. D'habitude, on dit voilà, c'était bien.
Nous avions à la technique.
Vas-y.
Dans la technique, nous avions Myriam et Laura. Sur le plateau, nous avions Mélanie et Lou.
Et voilà, c'était tout. On était juste quatre aujourd'hui. Et on peut vous annoncer aussi que la semaine prochaine, malheureusement, vous qui vous attendiez la semaine prochaine pour nous appeler, la semaine prochaine, tout le monde est en vacances. Et du coup, on va vous passer une rediffusion du 1er avril qui était mal passée à la radio et qui est... Bref, on s'en fiche, c'est celle du 1er avril qu'on va vous rediffuser la semaine prochaine, donc à la même heure, de 20h à 21h. Et du coup, on se retrouve, ça doit être le 20, 13 plus 7, 20, on se retrouve le 20 mai en direct sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et voilà, vous pouvez réécouter cette émission sur le site, sur kcas-libre.org. Et puis, bye bye!
À bientôt.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.